Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous.
Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
La nature, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Toujours moderne, toujours troublante, l'aimantation qu'exerce sur nous la silhouette de la Tour Eiffel est mystérieuse, comme si un ingénieur, en réalisant ce monument dédié enfin à rien, avait exprimé comme seul pourrait le faire de très grands artistes les forces qui nous entourent, auxquelles elle est conçue pour résister et qui de ce fait la galbent. Écrivain, chansonnier, poète, politique, peintre, tous ont pris parti pour, contre parfois, mais la fascination fut et est encore partagée. Comme si, quelle que soit sa hauteur, là n'était pas sa qualité première, puisqu'alors qu'aujourd'hui les plus grandes tours approchent du kilomètre vertical, aux yeux de ses admirateurs, la Tour Eiffel reste la plus haute. Alors qu'il s'agit aujourd'hui de décider de la couleur de sa robe, détaillons ensemble les qualités de cette grande dame. Je dis grande dame, tout en me souvenant qu'Irving Shaw s'étonnait de la curieuse logique de la langue française qui met au féminin un symbole phallique d'une telle taille. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression que cet exploit technique a fait surgir au bord de la Seine une figure symbolique pour la ville. Un peu sa Vierge Mère ou sa Sainte Geneviève, une déesse en tout cas figurée outre toute figuration, mais dont elle accomplit l'effet. Une sorte de protection symbolique d'une ville qu'elle protège de ses bras, elle qui n'en a pas. Étonnons-nous aussi que ce chef-d'œuvre de modernité qui choquait les amis des cathédrales et du classicisme parisien reprenne pourtant dans sa technique les découvertes des bâtisseurs de la fin du Moyen-Âge et que cette architecture de tension retrouve les efforts des arcs-boutants de Notre-Dame et les remplages dentellisés des fenêtres de la Sainte-Chapelle. Étrange radicalité qui ne se sépare pas de l'ancien pour porter le nouveau le plus absolu, le plus expérimental. Pour en parler, eh bien, je suis très heureux d'accueillir Pierre-Antoine Gatier. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour Jean.
Pierre-Antoine Gatier, vous êtes le grand architecte en chef des monuments historiques, l'académicien, l'esthète, le connaisseur, qui de plus est chargé d'imaginer la prochaine couleur de notre tour préférée. Nous allons approfondir cette histoire, nous allons voir ce qu'un architecte peut en dire et ce que les artistes en dirent aussi.
Rendez-vous sur la Tour Eiffel, paroles et musique de Charles Trenet, enregistré par Charles Trenet et Pierre Spears à Saint-Paul, Brésil. Rendez-vous sur la Tour Eiffel, la Seine à nos pieds à l'air. D'une écharpe blonde. Rendez-vous entre terre et ciel. Écoutons Paris chanter, vibrer à la ronde.
Pierre-Antoine Gatier, on a l'impression que tout ça va de soi, que nous admirons tous la Tour Eiffel, que le consensus est évident, le monde entier vient la voir, je ne sais combien de millions, vous nous le direz, de personnes la visitent chaque jour, vous allez lui donner une nouvelle robe, je ne sais pas comment vous l'avez imaginée, je ne sais même pas de quelle couleur elle était, vous allez nous l'expliquer, mais simplement pour se rappeler que c'était pas si simple, quelques années auparavant, en 1887, les écrivains les plus connus de l'époque, les musiciens, les Guy de Maupassant, Zola, Gounod, Garnier, Bougreau, Meissonnier, Sardou, Huysmans et bien d'autres ont manifesté contre la Tour Eiffel. Écoutons.
Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs,
architecte, amateur passionné de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de Tour de Babel. Il suffit, d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissant encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée.
Pierre-Antoine Gattier, je vous sens curieusement complice de ces barbares qui ont voulu à un moment donné créer cette tour Eiffel, alors que vous auriez dû être aux côtés de ces artistes et architectes qui se plaignaient que l'on abîme le paysage de nos plus beaux monuments, et ce monument dont vous avez en plus la responsabilité. Vous êtes totalement à contre-emploi.
Alors je suis un complice engagé, convaincu. Cependant, j'écoute ce texte avec beaucoup de respect, d'humilité. Qu'aurais-je écrit en 1887 ? Me serais-je trompé ?
C'est une bonne question. Et alors ? Parce qu'en plus, vous êtes victime d'être maintenant, en plus, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et on vous aurait volontiers associé à cette arrière-gardiste dans laquelle l'Académie n'est plus, mais dans laquelle elle était peut-être à cette époque.
Jean, vous avez raison. Voilà qui devient difficile. Cette liste des signataires, en fait, je l'ai beaucoup regardée, beaucoup lue.
Il y a des grands, quand même.
Il y a des très grands.
Zola. On ne s'attend pas à ce qu'il soit contre la modernité.
Garnier.
Oui.
L'opéra. Honoré Daumet. Honoré Daumet.
Je ne connais pas.
Architecte du domaine de Chantilly, pour lequel j'ai admiration. Et c'est un effroi pour moi de découvrir que cet architecte que je considère, que j'ai eu la chance de restaurer, finalement, malgré toute sa culture, s'est attaqué à la Tour Eiffel. Alors, nous parlons de la Tour Eiffel, mais j'ai l'impression que un débat contemporain sur les tours dans Paris reprendrait quasiment le même texte.
On a eu un débat presque semblable il y a quelque temps sur le Grand Triangle.
Tout à fait. Et donc, ce texte, nous le regardons aujourd'hui avec un certain, peut-être, mépris, dédain. Comment ont-ils pu tant se tromper ? Mais finalement, si l'on change quelques mots et qu'on le replace dans des débats d'actualité, ce n'est pas forcément un débat différent qui se développe aujourd'hui quand on évoque l'extrême modernité dans la ville.
Vous avez tout à fait raison, c'est intéressant d'essayer de réimaginer les choses. Et c'est vrai qu'il y a encore un débat très fort sur les tours, et on se compare souvent à Londres, qui a beaucoup plus d'audace que nous sur les tours, et nous en avons moins encore aujourd'hui. Alors il y a quand même quelqu'un qui me fait peine un petit peu dans l'affaire aussi, comme vous, c'est Huysmans. Parce que pour moi, Huysmans, c'est non seulement une langue sublime, mais la modernité même. Et j'aimerais bien entendre ce qu'il dit d'abord. Voyons voir.
La tour n'a point, comme on le craignait, soutiré la foudre, mais bien plus les plus redoutables des rengaines. Arc de triomphe de l'industrie, tour de Babel, vulcain, cyclope, toile d'araignée du métal, dentelle du fer. En une touchante unanimité, sans doute acquise, la presse entière à plat ventre exalte le génie de Monsieur Eiffel. Et cependant, sa tour ressemble à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage infandibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel.
Alors Pierre-Antoine Gatti, vous avez une responsabilité à l'égard de ce suppositoire dont parle Huysmans. Et cette responsabilité est assez extraordinaire. Je ne savais pas qu'un grand architecte devait réfléchir à la couleur de la Tour Eiffel. Et quand je l'ai su, je me suis dit, mais de quelle couleur était cette Tour Eiffel ? Je ne connais pas cette histoire.
Alors, j'ai cette responsabilité. Ma chance, c'est que c'est une responsabilité partagée. C'est une aventure collective. La Tour Eiffel est nôtre. La Tour Eiffel est ville de Paris. Et beaucoup réfléchissent à ce sujet et décident.
Vous voulez dire qu'on peut décider dans un cénacle de politique de la faire verte demain ? Vert pomme.
Cela risquerait de troubler. Non, en fait, la Tour Eiffel, c'est merveilleux, est protégée au titre des monuments historiques. Cela garantit un contrôle scientifique et technique, tel est le terme officiel.
Il y a longtemps que cette période est protégée par les monuments historiques ?
Alors, c'est au sein de l'histoire du service des monuments historiques, avec les premières protections de cathédrales en 1840. Non, la Tour Eiffel a été très récemment protégée, en 1964. C'est un moment qui compte énormément pour moi. On a construit la maison de la radio. On s'interroge sur la place du 19e et du 20e siècle dans notre histoire. Le service des monuments historiques s'est inventé sur la restauration des grandes cathédrales, des grands antiques. Et l'homme pour lequel nous avons considération et admiration, André Malraux, et ses équipes, a l'intuition incroyable en 1960 que non, notre patrimoine ne s'arrête pas au plus ancien, et qu'il est essentiel d'ouvrir notre regard aux œuvres les plus récentes de l'histoire de l'architecture. Il change les textes en 1961. Aussitôt est préparée une liste d'édifices devant être protégés. C'est la grande histoire des grands architectes du XXe siècle, Le Corbusier, Malestévins, mais aussi des grands monuments essentiels, et la Tour Eiffel et dans cette liste. Donc en 1964, la Tour Eiffel est inscrite au monument historique.
Mais en fait, donc ça c'est un moment très important. Je me souviens encore de périodes où on négligeait le 19e au point de souhaiter le détruire quand on voulait restaurer d'autres aspects d'un monument. Mais vous êtes interrogé sur une question, la couleur de la Tour Eiffel par la ville de Paris, l'État, etc. Mais je ne sais même pas pourquoi il y a question, puisque Eiffel a voulu qu'elle soit je ne sais plus quoi, et il suffit de la faire comme le voulait Eiffel pour être sérieux.
Eh bien voilà, Jean, vous avez tout trouvé. Il fallait faire comme l'avait fait Eiffel. Sauf que dans le temps, on a oublié, on a perdu de vue ce qu'avait voulu Eiffel. Et voilà cette histoire. En 1889, pour l'exposition universelle, nous savons que la Tour Eiffel était peinte en rouge, rouge minium.
Est-ce que ça veut dire qu'elle était rouge, ça, alors ?
Elle était rouge.
Comme dans les tableaux de Delaunay ?
Et voilà.
Qui sont peints plus tard, pourtant.
Tout est là. 1889, la Tour Eiffel est rouge. Dès 1892, Gustave Eiffel entame la première campagne de repeinture de la Tour Eiffel. Il change la teinte, il choisit une gamme d'ocre, le jaune-brun. Basculement incroyable.
Alors là, je me demande si c'est pas ça dont parle Huysmans à un moment donné. Il a une petite allusion au jaune et je ne pense pas que ça va vous faire plaisir. Écoutons.
Cette allure d'échafaudage, cette attitude interrompue, assignée à un édifice maintenant complet, révèle un insens absolu de l'art. Que penser d'ailleurs du ferronnier qui fit badigeonner son œuvre avec du bronze barbedienne, qui la fit comme trempée dans du jus refroidi de viande ? C'est en effet la couleur du veau, en belle vue des restaurants. c'est la gelée sous laquelle apparaît, ainsi qu'au premier étage de la tour, la dégoûtante teinte de la graisse jaune.
Pierre-Antoine Gatier, cette dégoûtante teinte de graisse jaune, c'est cela qu'aurait choisi
Alors, il y a également le terme barbedienne, couleur fonte barbedienne.
Je ne vois pas ce que c'est que cette couleur, d'ailleurs.
En fait, c'est la couleur du bronze, qui est un brun rouge foncé. La tour Eiffel est rouge, c'est comme ça que nous le présentent certains artistes. Mais Gustave Eiffel est un homme incroyable, elle n'est pas rouge. En fait, il y a 5 valeurs, 5 teintes, du rouge foncé, pratiquement jusqu'au jaune, en partie haute, un dégradé.
Ça, c'était dès l'origine.
Dès l'origine.
Expliquez-moi quelque chose. Pourquoi dégradé? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir comme effet?
Il l'explique de la façon suivante. Comme c'est décrit dans tous ses textes, voilà, c'est une structure métallique ouverte, mais plus la tour Eiffel s'élève, plus la densité du métal est forte, plus la structure se resserre, la transparence se réduit. Et pour s'opposer donc à ce noircissement de la tour, voilà, il éclaire la couleur. Et puis c'est sans doute aussi une recherche de renforcement encore du mouvement ascendant de la tour, du plus foncé au plus clair. Incroyable.
En fait, c'est très subtil, parce que ce que vous dites, c'est que la masse, quand la structure se resserre, la masse métallique est resserrée, la résille est beaucoup plus compacte, et du coup, l'effet est beaucoup plus sombre. Et donc, il a joué là-dessus, et sur la fusion avec le cosmos, en fait.
Oui. Ça m'impressionne énormément. C'est-à-dire que cette idée, déjà, choisir cette couleur qui a beaucoup de sens, c'est la couleur de l'industrie, c'est la couleur du minium de plomb, c'est la couleur de l'architecture, de fer, de l'usine, ce que lui reprochent les artistes en 87. Mais en fait, il s'approprie cette couleur pour en faire autre chose, cette couleur atmosphérique, voilà, qui va du bronze barbedienne jusqu'au plus clair en partie haute. Incroyable.
Alors, donc, vous avez toutes les solutions. Finalement, si vous avez retrouvé cela, vous savez tout de ce qu'il faut faire, ou bien est-ce qu'il y a des questions qui demeurent encore ?
Gustave Eiffel est un homme de la recherche permanente et il apparaît qu'il ne va pas se satisfaire de cette première teinte. Et le grand bouleversement, c'est qu'en 1892, première repeinture de la tour, il change la couleur. Il abandonne le rouge, qui va rester mythique, qui va continuer à influencer les artistes. C'est fini. En 1892, c'est fini. C'est une tour jaune-brun.
Là, on arrive au jus de veau dont on parlait tout à l'heure, en gelée.
Sans doute, sans doute. Sans doute.
Mais... Pardon.
Non, je suis déstabilisé.
C'était Huysmans qui disait voilà. Ça. Je m'en remets à sa culpabilité, à lui.
Je me raccroche au fait que Huysmans a d'abord dit fonte barbedienne. Ça, c'était chic. Et j'ai retrouvé des textes conservés dans les archives aux États-Unis. Compte rendu d'une visite de l'American Institute of Architects venu voir la tour Eiffel en 89 et qui parle de cette teinte barbedienne. Voilà, donc ça a beaucoup impressionné.
Le fait qu'il change de couleur, est-ce que ça serait dû à une sorte de pression politique? On la voit trop. Faute rouge, on le voit trop. Faites plus pâle, qu'on la voit moins.
Je ne suis pas certain que ce soit cela. Je crois que c'est un bouleversement de sens. En 1889, elle est objet éphémère d'une exposition universelle, elle est objet de l'industrie, elle est le résultat du calcul mathématique, elle est objet de l'ingénieur. En 1892, la tour Eiffel, avec cette nouvelle couleur ocrée, devient architecture. d'objet de l'industrie, elle devient monument parisien. Je crois que c'est cela qu'a voulu faire Gustave Eiffel. Et cela est son grand projet tout au long de sa vie. Comment transformer un objet du calcul industriel en monument de l'architecture parisienne. Et je crois que c'est ça ce que raconte ce changement de teinte.
Ça me fait penser à ce que disait Blaise Cendrars, parce que Blaise Cendrars décrit la tour Eiffel au milieu du feu d'artifice géant de l'exposition universelle, au milieu des représentations qu'il y avait dans l'exposition universelle de tous les peuples, du Gange, du Bénarès, des Toupi-Onanis, disent-ils, des temples hindous. Il a fait un très beau poème là-dessus, on va l'écouter d'ailleurs. Et là, on imagine que dans cet univers criard de la grande fête qui doit installer au fond la France après la guerre de 70, donc au sommet de la vie européenne, il fallait que le symbole de l'exposition universelle soit éclatant, visible, rouge. Écoutons le texte coloré de Blaise Cendrars.
Je dînais d'une orange à l'ombre d'un oranger, quand tout à coup, ce n'était pas l'éruption du Vésuve, ce n'était pas le nuage de sauterelles, une des 10 plaies d'Égypte, ni Pompéi, ce n'était pas les cris ressuscités des mastodontes géants, ce n'était pas la trompette annoncée, ni la grenouille de Pierre Brisset, quand tout à coup, feu, choc, rebondissement, étincelle des horizons simultanés, mon sexe. Ô tour Eiffel, je ne t'ai pas chaussé d'or, je ne t'ai pas fait danser sur les dalles de cristal, je ne t'ai pas voué au Python comme une vierge de Carthage, je ne t'ai pas revêtu du péplum de la Grèce, je ne t'ai jamais fait divaguer dans l'enceinte des menhirs, je ne t'ai pas nommé tige de David ni bois de la croix. Ô tour Eiffel, feu d'artifice géant de l'exposition universelle. Sur le Gange, à Bénarès, parmi les toupies onanistes des temples hindous et les cris colorés des multitudes de l'Orient, tu te penches, gracieux palmier. C'est toi qui, à l'époque légendaire du peuple hébreu, confondis la langue des hommes. Ô Babel.
Coloré. Et effectivement, quand il parle de l'oranger, on sent que c'est cette période-là où elle est effectivement le sexe de Paris, d'une certaine façon.
Ce qui me passionne, en fait, c'est de confronter chaque production artistique, qu'elle soit littéraire ou l'œuvre d'un peintre, avec la chronologie exacte de la couleur de la tour Eiffel. Est-ce que Blaise Cendrars, quand il écrit son texte, regarde la tour et la couleur que nous connaissons grâce aux recherches scientifiques, ou est-ce qu'il regarde des images du passé, de l'exposition universelle, de l'inauguration de 1889 ? 1889, elle est rouge. 1892, elle est ocrée. 1905, 1907, elle est jaune-brun. Et c'est en 1965 que la tour prend la couleur qu'elle a aujourd'hui, qui est un gris foncé.
Et que vous allez modifier ?
À partir de recherches scientifiques, d'une centaine de sondages, de dépouillement de l'ensemble des archives, de l'identification de chacune des campagnes de peinture, qui était le peintre, qui était l'entreprise, quels étaient les matériaux utilisés, on a pu reconstituer cette histoire dans le temps long. Et dans une démarche partagé avec la SET, maître d'ouvrage, la ville de Paris, le service des monuments historiques, avoir la conviction que cette teinte jaune-brun, choisi par Gustave Eiffel, remis en œuvre tous les 7 ans, parce qu'il a inventé cette idée qu'on repeindrait, et ça n'a jamais arrêté, que l'on repeindrait la tour tous les 7 ans. Voilà, c'est une couleur connue, créée par Gustave Eiffel, remis en place tous les 7 ans. C'est cela que nous reconstituons actuellement.
Vous pouvez nous faire une révélation sur la couleur décidée
La couleur qui a été décidée, Jean, c'est le jaune-brun de Gustave Eiffel. C'est ce qu'il a mis en place dès 1892. Il décède en 1923, tous les 7 ans. Il a remis cette couleur avec des adaptations parce qu'il changeait sa composition. Elle a été maintenue par les successeurs. Et c'est en 65 que l'on change la couleur.
Alors je me demande, est-ce qu'il y a eu quelques esprits échauffés qui auraient eu le désir de se dire « c'est à nous d'inventer la couleur de la Tour Eiffel, chaque génération peut inventer après tout ». Ou est-ce que c'est touché à une œuvre totale, donc il n'y a pas de raison de changer ce qu'a voulu l'artiste ? C'est comme de repeindre la Joconde.
Alors la chance que j'ai, c'est que vous m'avez donné la réponse. En fait, c'est une œuvre totale. Nous l'appelons la Dame de Fer. Gustave Eiffel publie un livre incroyable au moment de l'exposition universelle de 1900, La Tour de 300 mètres. Il explique que la Tour Eiffel est un chef-d'œuvre de construction métallique. La Tour Eiffel est un chef-d'œuvre de peinture sur métal. Pour lui, c'est l'un avec l'autre. Et qu'il n'aurait pas été possible d'avoir la Tour Eiffel sans cette science de la mise en peinture. Donc oui, c'est une œuvre totale.
Et nous la trouvons belle, comme dit Mouloudji. Écoutons-le.
Mais nous qui la trouvons belle, nous défendrons notre tour. Il faut tout donner pour elle, nos bras, nos cœurs, nos amours.
Nous qui la trouvons belle, la Tour Eiffel, Mouloudji. Je suis très intéressé de vous avoir dans cette émission, Pierre-Antoine Gatier, parce que vous êtes aussi un architecte qui travaillait sur énormément de sujets. Mais parmi ceux-ci, il y a les grands bâtiments gothiques. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour un connaisseur, un spécialiste, un restaurateur, un architecte qui collabore au fond avec les grands architectes du XIIIe siècle et la technique de la Tour Eiffel? Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que ça se retrouve? Ou est-ce que c'est complètement opposé?
Le point commun pourrait être tout d'abord cette valeur du dépassement. Construire plus haut, construire plus grand. C'est le grand rêve du XIIIe siècle. C'est le grand rêve de Gustave Eiffel. Mais pour réaliser cela, il y a sans doute cette science de la construction. Le grand maître du XIIIe siècle, qui est le modèle, par exemple, de Viollet-le-Duc, le sommet de l'architecture, c'est le XIIIe siècle. Et donc, le rationalisme constructif du XIXe siècle trouve sans doute sa source dans l'art de construire du XIIIe siècle. Des matérialités différentes, une dimension, une place du sacré différente, mais se dépasser, construire plus haut, est-ce la tour de Babel, construire mieux, et puis, ce que Roland Barthes va évoquer, essayer de quelle est la place de la lumière dans tout cela. Donc oui, rapprochons la tour Eiffel des grandes cathédrales du XIIIe siècle.
Il y a un très beau texte de Roland Barthes que vous venez de citer. Ben, écoutons-le. On va revenir sur cette relation, parce que les matériaux ont changé. Et puis, probablement, il y a des découvertes, l'aérodynamique, d'autres aspects qui ont dû être très importants.
Une qualité de la tour est sa substance aérienne. C'est une qualité bien particulière d'étendue, puisqu'on la trouve ordinairement dans certains tissus. C'est l'ajouret. La tour est une dentelle de fer, et ce thème n'est pas sans rappeler l'évidement tourmenté de la pierre dont on a toujours fait la marque du gothique. La tour relaye encore une fois ici la cathédrale. L'ajourée est un attribut précieux de la substance, car il l'exténue sans l'anéantir. En un mot, il fait voir le vide et manifeste le néant sans pour autant lui retirer son état privatif. On voit toujours le ciel à travers la tour. En elle, l'aérien échange sa propre substance avec les mailles de sa prison. Le fer, délié en arabesque, devient lui-même de l'air. Sans doute, ce caractère aérien de la tour a une origine positive. Il fallait trouer à l'extrême le matériau pour qu'il offrît le moins de prise possible au seul ennemi dangereux qu'Eiffel ait rencontré dans son entreprise. Le vent. Mais par là même, on saisit la nature la plus subtile de l'aérien, c'est la substance antithétique du vent, dans la mesure même où il est du vent dominé, quintessentié, sublimé. Le vent est toujours symbole de puissance immaîtrisée et par suite de massivité. Vaincre le vent, comme le fait la tour, c'est donc aller du côté du léger et du subtil. C'est rejoindre les grandes mythologies de l'esprit songeur et libérateur.
En 1880, au temps des crinolines, les dames avaient le temps d'être tendres et câlines. Et les messieurs, pour leur plaire, ne savaient vraiment que faire. Alors Monsieur Eiffel, un beau jour pour sa belle, a voulu faire une tour. Là, vous voyez, mademoiselle, c'est le plan de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres, où comptez-vous la mettre? Côté du pont de Javel, à Montmartre, bien à Grenelle, la petite a dit, merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où, à Montmartre, au pont de Saint-Cloud, au champ de Mars, à Montparnasse, je vous préviens, il n'y aura plus moyen, après ça, de la bouger de là. Pendant longtemps, Monsieur Eiffel passa des nuits blanches, blanches.
Il avait, comme on dit, beaucoup de pain
sur la planche, blanche. Quand sa tour fut terminée, il dit à sa dulcinée,
je suis content, venez, 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 levez votre petit nez. Ça, vous voyez, mademoiselle, ça s'appelle la tour Eiffel.
Elle est un peu pointue, mais on s'y habitue. Voulez-vous que je vous emmène faire le tour du propriétaire?
La petite a dit, merci beaucoup, elle est vraiment un peu haute pour mon goût.
Tout se faire a dû coûter cher, ça n'est pas une bonne affaire. Bien trop cher, et la prochaine fois, croyez-moi, faites-la donc en bois. Et puis a dit la demoiselle, à quoi sert votre tour Eiffel? Venez donc au troisième, vous le verrez vous-même. Et depuis toutes les demoiselles sont montées sur la tour Eiffel. Combien d'entre elles, dans l'ascenseur ont trouvé l'âme sœur. Lune de miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont les ailes. Et l'amour tout en haut de la tour a chanté, vive Monsieur Eiffel. La 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 la. Miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont des ailes, et l'amour tout en haut de la tour a chanté, vive Monsieur Eiffel.
En fait, Pierre-Antoine Gatier, je disais que la tour Eiffel était le, au fond, pas un monument commémoratif, il ne célébrait rien, mais peut-être que c'est ça qu'il célèbre, le vent, la force des éléments, le mouvement des nuages.
Il ne sert à rien, mais en même temps, dans votre introduction, voilà, vous avez employé ces expressions incroyables de dire que voilà, Tour Eiffel est la protection de la ville. Elle ne sert peut-être à rien, mais aujourd'hui, elle est le symbole, l'incarnation. Elle a pris cette dimension immatérielle incroyable.
Oui, c'est un monument qui a trouvé une fonction qu'il est très difficile de formuler parce que elle n'a pas la force de protéger, mais pourtant, elle a, j'ai ressenti profondément qu'elle avait ce rôle symbolique ou psychique presque.
Elle est une grande présence. Et si l'on revient au texte inquiet des artistes de 87, en fait, c'est ça qu'ils refusaient. Ils refusaient cette grande tour au-dessus des monuments du génie français. Tel est un peu leur propos. Mais finalement, cette présence est là et elle permet à tout le reste d'exister sereinement. Elle est la protection, oui.
Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites sur les critiques de l'époque. On sent très fortement un aspect nationaliste. Il ne faut pas défigurer l'image de la France. Et les réponses qu'avait fait le ministre, que je ne voulais pas vous faire entendre, parce qu'on n'a pas assez de temps, mais étaient très très nettes sur il faut qu'on montre notre ingénierie extraordinaire. Et c'est vrai que cette époque d'architecture, de l'art des ingénieurs, comme on le dit, est une époque fascinante, où il y avait une compétition réelle entre les artistes et les ingénieurs, d'une certaine façon.
C'est le chef-d'œuvre de l'art des ingénieurs, c'est le chef-d'œuvre, et cela a été écrit, d'une œuvre issue du calcul, c'est les mathématiques qui ont créé la Tour Eiffel, c'est l'art des ingénieurs, c'est un aboutissement. Elle est l'aboutissement de l'art de construire du 19e siècle.
Alors j'aime bien, dans un texte, Roland Barthes évoque quelque chose qui me fait penser à l'art gothique aussi, c'est le rapport avec le végétal. Parce que non seulement il y a une décoration végétale, mais elle-même se déploie comme un végétal. Et au fond, l'architecture gothique a cette... Il y a cette tradition de lecture de l'architecture gothique, en tout cas.
Très juste.
Écoutons Roland Barthes.
La tour a de la plante, l'essentiel, c'est-à-dire le mouvement, la simplicité même de ces deux lignes parties de terre et rejointes vers le ciel, comme celle d'une tige. Mais ce n'est pas tout. Car si l'on s'approche, la tour n'apparaît plus comme le jet vigoureux d'une plante, mais comme une efflorescence. On monte en elle comme dans une fleur d'air et de fer. En elle se retrouve la rectitude des fibres, l'arabesque des pétales, l'élancement serré des bourgeons, l'étalement des feuilles et le mouvement même qui tire vers le haut cette matière compliquée et ordonnée.
Roland Barthes est toujours un écrivain merveilleux à écouter. Et donc, vous êtes chargé de mettre quelques couleurs sur ces pétales. Et mettre des couleurs sur un pétale, ça pèse quelques tonnes sur la Tour Eiffel. Est-ce que ça pose des problèmes de mettre la 20e couche de peinture sur cette pauvre Tour Eiffel?
Alors, cette belle Tour Eiffel doit être protégée par sa peinture. Et couvrir le métal représente une charge de 50 tonnes. Chaque campagne de peinture, c'est 50 tonnes.
Mais s'il y a eu 20 campagnes, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 fois 50 tonnes, ou vous poncez tout à chaque fois?
Alors, on aurait dû trouver ces 20 campagnes multipliées par 50 tonnes.
Ben oui.
Mais ce qui est incroyable, et ce que Gustave Eiffel avait compris avec son expérience de constructeur de métal, voilà, c'est que la peinture s'use, la peinture s'érode, la peinture s'abîme. Il y a le champ de Mars qui agit presque comme une sableuse sur les peintures de la Tour Eiffel. Et donc, de manière très rigoureuse, les gestionnaires de la tour, tous les 7 ans, engagent cette peinture, cette campagne pour protéger, recouvrir la tour. Et c'est ce qui est engagé aujourd'hui.
Vous voulez dire que si on avait enlevé le sable des allées du champ de Mars, elle serait beaucoup plus lourde?
Il n'y a sans doute pas. Alors, elle serait peut-être plus
lourde.
Ça me
plaît, cette mécanique des fluides qu'aurait imaginé Eiffel. Mais je vous crois.
Ouais. Non, mais il y a aussi l'atmosphère, l'humidité, le vent. Voilà, il faut. Le métal doit être entretenu et peint.
Ouais, non, mais je me doute de ça. Ça m'enchante qu'elle. Que cet espace tellement, cette forme tellement autonome soit tellement liée à tout le système cosmique, tout le système physique qui est autour de lui.
C'est un, C'est un territoire, c'est un microclimat. Et en même temps, comme l'ont écrit Blaise Cendrars, c'est tous les poètes, c'est un phare. Donc oui, elle est ce repère en pleine mer.
Écoutons ce qu'en dit Vicente Huidobro. Nous sommes en 1917 et c'est intéressant parce qu'en 1917, il y a quelque chose d'autre qui va être créé, qui va s'inaugurer en 20, je crois. C'est la tour à la Troisième Internationale de Tatlin et qui est bien inspirée, évidemment, dans sa révolution, et là je suis au sens strict, ou dans tous les sens, de la tour Eiffel.
Guitare du ciel, ta télégraphie sans fil attire les mots comme un rosier les abeilles. Pendant la nuit, la Seine ne coule plus, télescope ou clairon, tour Eiffel, et c'est une ruche de mots ou un encrier de nuit. Au fond de l'aube, une araignée aux pattes de fil de fer faisait sa toile avec des nuages, do, ré, mi, fa, sol, si, do. Nous sommes en haut. Un oiseau chante, c'est le vent. Dans les antennes de l'Europe télégraphique, le vent électrique, les chapeaux s'envolent. Ils ont des ailes, mais ne chantent pas.
Pierre-Antoine Gatier, notre tour Eiffel donc fait des enfants. On peut dire que la tour à la Troisième Internationale de Tatlin, cet extraordinaire monument qui est censé porter les messages de la Révolution, est un de ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui on a appris quelque chose de la tour Eiffel qui est intéressant pour des architectes contemporains qui construisent une tour, ou est-ce que c'est tellement différent, est-ce que c'est tellement lié à une époque, que c'est tellement limité comme, ou spécifique que ça n'a pas de conséquences?
La tour Eiffel est une leçon de l'art de construire. Elle est une leçon de la maîtrise. Ce qui est très souvent relevé, c'est la façon dont Gustave Eiffel, son équipe d'ingénieurs fidèles, Maurice Koechlin, tout était dessiné, tout était préparé en atelier, tout était prépeint en atelier, et tout était apporté, assemblé sur place. La tour Eiffel anticipe ou démontre que le grand chantier est réussi quand tout est pensé, imaginé, contrôlé. Il montre aussi, et c'est peut-être une valeur humaine, qu'il se réussit, je ne vais pas dire en famille, mais il y a une fidélité autour de Gustave Eiffel, il y a cet enthousiasme partagé, donc est celui de la conviction du progrès au XIXe siècle, mais ils sont tous ensemble pour réussir quelque chose. Donc ça, c'est l'autre leçon que je retire de la tour Eiffel.
Oui, parce qu'il y a un travail de planning, d'entreprise, de préparation, de programmation des mouvements, des matériaux, qui devait être très compliqué. Elle a pris un an de retard lorsqu'elle a été construite, me semble-t-il, mais elle est arrivée à l'heure pour, la grande exposition internationale. Mais c'est un modèle d'organisation, le monde d'Eiffel, je suppose, à l'époque.
C'est un modèle d'organisation. C'est un modèle d'entreprise. Chez Gustave Eiffel, on savait tout construire. Sur la question de la spécialité, il construit des viaducs, il construit des ponts, mais...
Il construit la structure de la Statue de la Liberté.
Il construit la structure de la Statue de la Liberté, qui est un autre grand pylône, mais il construit des gares, des édifices, toutes les échelles d'architecture, tous les programmes, tout peut être réalisé par Gustave Eiffel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chaque fois que l'on parle d'une structure métallique, vous entendrez... Ah, ceci est une structure Eiffel. Non, on lui attribue maintenant pratiquement l'entièreté de la production d'architecture métallique. Il savait tellement tout faire. Donc il y a cette leçon absolument incroyable, maîtrise, l'équipe, concevoir. Et puis, Il est un visionnaire. N'oublions pas que la tour n'aurait dû exister que 20 ans. Et il aperçut très vite que cette tour, en fait, a un sens et qu'elle doit rester. Et tous les biographes de Gustave Eiffel...
Vous pensez qu'il l'avait espéré tout de suite ?
Je ne sais pas. Je devrais sans doute le savoir. Je pense que d'abord, il doit résoudre cette idée de réaliser. Il mesure l'importance de ce que va être la tour, puisqu'on sait qu'il rachète tous les brevets en son nom. Donc c'est pour lui. Donc il sait que c'est essentiel. Et puis après, il y a des circonstances de la vie. Donc il y a le grand drame du scandale du canal de Panama, dans lequel il est condamné en 1893. La même année, il est condamné et il va être blanchi. Mais en 1889, la tour est construite. Le scandale de Panama se déroule au même moment. En 1893, il y a deux décisions incroyables. Il est blanchi du scandale de Panama et il abandonne l'entreprise Gustave Eiffel. Il change de vie et dorénavant, je pense que son combat, c'est faire durer la tour et se tourner vers autre chose, la recherche de l'aérodynamique, la recherche des ondes radio. Voilà, donc c'est un visionnaire. Et donc quelles sont les leçons de la tour ? Mais c'est tout cela, c'est construire, penser, rêver.
Donc ça a fait rêver les artistes, je pense. On pense tous à Delaunay, parce que Aimé n'est pas le seul, Chagall et beaucoup d'autres, Grommer, ont travaillé sur la tour Eiffel, à partir de la tour Eiffel, ont été obsédés par la tour Eiffel. Tiens, écoutons ce que dit Delaunay d'ailleurs.
À une époque, la nôtre, préparée d'éléments synthétiques par quelques inventeurs ou visionnaires, ne peut-on pas prévoir une transformation radicale de notre vie, voire de notre entendement de l'universel ? On peut prévoir alors des grandes réalisations. La tour surréelle aura été l'index, ce qui montre, dirige et préfigure le symbole du destin.
Quand j'entends Delaunay dire cela, j'ai la sensation que c'est devenu le signe optimiste de la possibilité d'inventer un nouveau vocabulaire totalement libre pour les artistes. Que ça a été une possibilité incroyable de révolution par rapport aux formes anciennes.
Une grande création, la modernité, mais je voudrais atténuer...
Mon enthousiasme ?
Sûrement pas. Mais la tour Eiffel a changé. En fait, elle est aujourd'hui, depuis 1937, plus radicale qu'elle ne l'était en 1889. Le premier étage était rythmé d'arcatures, très art nouveau. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était spectaculaire, contrasté, plus orné que ce qu'elle va devenir. Granet, grand architecte moderne, en charge de la tour Eiffel, il le mari des filles de Gustave Eiffel, et donc il supprime ce niveau d'arcature que l'on voit dans les images de Delaunay. Donc, ces artistes, comme vous le dites, Jean, considèrent que la tour Eiffel est l'espoir de la modernité, et malgré ces ornements, ces arcatures, ils y voyaient quelque chose de radical. Peut-être que nous ne saurions pas aujourd'hui la reconnaître aussi radicale qu'elle l'a été.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a deux choses que je trouve très intéressantes. C'est que beaucoup d'œuvres dans l'histoire de la sculpture sont des œuvres qui expriment quelque chose de l'artiste, quelque chose de la psychologie, de son tourment, si on regarde des sculptures de Rude ou de voilà. Et là, on est dans une structure, mais on a la sensation que c'est très proche de la sculpture telle qu'on l'imagine aujourd'hui, qui n'exprime rien de soi. Et au fond, c'est une période où les artistes aiment cette beauté d'indifférence. Marcel Duchamp regarde une hélice et dit « Ah, mais on peut pas faire mieux ». Brancusi fait son oiseau parce qu'il s'est dépouillé de tout orgueil. Il n'y a rien qui l'exprime lui. Les choses expriment les forces du monde, en fait. Et on a la sensation que c'est ça qui est moderne. C'est qu'on se délibère, on se libère du romantisme psychologique et on parle maintenant des forces du monde. C'est possible ou pas?
C'est très convaincant.
Oui, mais c'est une... Je
ne sais pas trop comment répondre. Et je me raccroche au texte de Barthes, fait, qui dit que... Alors, il y a cette, le côté minimaliste, ready-made, que vous décrivez. Mais ce que dit Barthes, c'est depuis Roland Barthes, depuis la Tour Eiffel, vous regardez la vie, vous regardez le monde. Donc peut-être que cet objet est en rupture, mais son usage, c'est de regarder Paris, de regarder le grand paysage, d'essayer de le comprendre. Donc il est aussi la vie, il est une abstraction, mais qui regarde le monde.
C'est pour ça que Guy de Maupassant, d'ailleurs Barthes le cite à un moment donné, allait souvent à la Tour Eiffel pour ne plus la voir. Et parce que c'était, il a même quitté la France, dit-il. On peut écouter ça d'ailleurs. Écoutons ça, c'est un petit texte de 1890 qui s'appelle « Lassitude ».
J'ai quitté Paris et même la France. Parce que la Tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout. Faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar inévitable et torturant. Ce n'est pas elle, uniquement d'ailleurs, qui m'a donné une irrésistible envie de vivre seule pendant quelque temps, mais tout ce qu'on a fait autour d'elle, dedans, dessus, aux environs. Comment tous les journaux vraiment ont-ils osé nous parler d'architecture nouvelle à propos de cette carcasse métallique? Car l'architecture, le plus incompris et le plus oublié des arts aujourd'hui, en est peut-être aussi le plus esthétique, le plus mystérieux et le plus nourri d'idées. Il a eu ce privilège à travers les siècles de symboliser, pour ainsi dire, chaque époque, de résumer, par un très petit nombre de monuments typiques, la manière de penser, de sentir et de rêver d'une race et d'une civilisation.
Voici le petit texte de quelqu'un d'un petit peu aigri à l'égard de la Tour Eiffel, hein, mais pourtant, ça ne m'empêche pas d'être un grand écrivain, mais de toute façon, ça fait une sorte de partage entre les classiques et les modernes, on peut dire tout simplement. J'allais vous interroger, Pierre-Antoine Gatier, sur la dépose de ces ornements Art Nouveau qui étaient sur la Tour Eiffel. Donc ces arcades... que je trouve très, très belle. Maintenant, font place à une structure beaucoup plus raide, dans laquelle on devine au premier étage, d'ailleurs, le Jules Verne, la structure du Jules Verne, qui épaissit, au fond, cette liaison. Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce que, donc, vous avez probablement décidé de suggérer aux équipes qui s'en occupent de remettre tout ça en l'état?
Pas tout à fait. En fait, je crois à l'idée que... Voilà, l'architecture se transforme, l'architecture est écho de notre histoire, et je ne crois pas qu'il faille absolument toujours revenir à l'état d'origine. Je crois que ces transformations disent de l'évolution de notre regard. La Tour Eiffel en 1889 est très ornée, elle a cet étage... avec des pavillons, on sait qu'il était posé des pavillons en bois, des restaurants. Il y a ce registre d'arcature en façade. En 1937, la dernière grande exposition universelle art et technique de la vie moderne qui se tient en France, Granet, l'architecte, réécrit à la moderne le grand étage de la Tour Eiffel.
Eh ben, je suis en désaccord avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous jouez sur deux tableaux. Et ça ne m'étonne pas. Quand vous parlez de la couleur, vous dites, mais après tout, Eiffel, c'est un artiste. Il a conçu sa couleur. J'ai retrouvé exactement ce qu'il a voulu, etc. Et puis, quand il s'agit du bâtiment, ah, c'est pas, là, c'est plus un artiste, c'est un architecte. Il y a d'autres architectes qui passent après. Comme un monument, ben, l'histoire du bâtiment, ben, il fait partie de l'histoire du bâtiment. On en garde les traces. Mais si c'était un artiste, vraiment, on aurait enlevé les repas, on aurait enlevé les ajouts, on aurait retrouvé ce que Michel-Ange a voulu faire sur son tableau. Donc, on ne peut pas avoir exactement le même dogme si on le considère comme un artiste ou si on le considère comme un architecte. Je lance un débat qu'on va faire rendre très court.
L'architecture se transforme. Et voilà, je regarde, j'essaie de comprendre, analyser, respecter ces transformations, leur donner du sens. Ces pavillons, ces arcatures vont disparaître en 1937. Mais pendant tout ce moment-là, la tour Eiffel est jaune-brun. Donc il y a une cohérence. Elle n'est plus rouge. Elle est, depuis 1892, elle est jaune-brun. Et elle va vivre. Elle va traverser jusque dans les années 60. Voilà, la première moitié du XXe siècle. Voilà, riche de cette couleur. Et capable, voilà, de devenir l'objet moderne des années 30.
Moi, je trouve que la tour Eiffel a bien fait de vous rencontrer. Je la sens entre des mains sûres pour ce projet. Et vraiment, je trouve que c'est extraordinaire de vous entendre nous décrire comment il l'a voulu, les rapports avec le ciel, comment est-ce que la personnalité de cette dame, de cette demoiselle, lorsqu'elle était là pendant l'exposition universelle, était celle-ci. Puis lorsqu'elle devient une dame, elle change de personnalité. Je trouve ça extrêmement convaincant. Je pense qu'elle a une maturité et elle ne joue pas du tout le même rôle qu'un signal d'une exposition. Maintenant, elle est le signal d'autre chose. Et j'ai la sensation que vous avez parfaitement raison. Et je trouve ça incroyable qu'un grand spécialiste de l'art gothique soit aujourd'hui chargé d'intervenir, même si ce n'est que sur la surface, sur son derme, sur cette tour Eiffel. Ça montre une continuité entre les époques, un intérêt pour le devenir, un goût de la métamorphose qui est formidable. Pierre-Antoine Gatier, je vous remercie de tout cœur.
Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'Art et la matière, une émission de Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'avais la joie de recevoir Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, membre de l'Académie des Beaux-Arts et responsable de la très symbolique 20e campagne de mise en couleur de la Tour Eiffel, et qui nous en décrivait les enjeux. Pour retrouver les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, recherche documentaire Maureen Roy, prise de son Stéphane Touvenin, réalisation François Connac, lecture des textes Johanna Nizar. Bon après-midi sur France Culture.